Pour moi, être artiste, c'est un moyen de survie. C'était indispensable, en fait, pour moi de produire si je voulais rester saine dans ma tête, en fait. Sans la création, il y a un gros manque. Et je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui aussi permettrait à la société de survivre et, en tout cas, d'envisager le monde dans lequel on est de manière beaucoup plus sereine, de réfléchir, en fait, sur notre monde autrement que par les éléments qu'on met en avant principalement dans notre société, qui est l'économie, le marché, le capitalisme. Ça donne un autre prisme, une autre ouverture. Et en tout cas, moi, c'est celle-là que je privilégie quand je regarde le monde et quand je produis.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? L'artiste avec laquelle je discute aujourd'hui est Milena Massardier. Elle est née en 1986 et originaire du nord de la France. Milena Massardier utilise différents médiums comme la céramique, la vidéo, le dessin ou encore la broderie. Sa production artistique trouve son origine dans le cinéma de genre et particulièrement les films d'horreur. Elle travaille sur le corps et de manière spécifique sur le féminin, auquel elle s'attache à déconstruire les formes iconiques en mixant les attributs symboliques de l'histoire de l'art et de la culture populaire. Elle part d'une banque de données d'images qui tire ses références à des espaces où la femme ne se trouve pas cantonnée à des rôles classiques et stéréotypés, et elle s'approprie ces archétypes pour en donner un point de vue féminin, et propose ainsi une nouvelle lecture, et souvent en les inversant. Elle ne garde que les éléments qui représentent le pouvoir pour les attribuer aux femmes qui en sont habituellement dépourvues.
Alors quand je crée, généralement, j'ai plusieurs idées en fait qui me viennent en même temps. Donc c'est vrai que j'ai des thématiques qui se croisent entre elles, le travail sur le corps féminin, le rapport au cinéma. Et donc il y a généralement une espèce de quelque chose qui s'amasse ensemble, et après mon but en fait c'est un peu comme une pelote, c'est de tirer les ficelles pour voir ce qui va fonctionner dans par exemple une production, une forme d'installation, ce qui va tendre au volume, ce qui va tendre en fait, qui va être plus être prédisposé à partir sur du dessin, sur du 2D. Et une fois que j'ai réussi à établir ça, ça me permet de commencer en fait à produire. Et généralement, je travaille sur deux voire trois projets en même temps, parce que ça me, enfin de pièces, parce que ça me permet en fait de me vider en fait l'esprit. Quand je suis coincée sur quelque chose, ça me permet de partir sur l'autre et de pouvoir en fait réfléchir en arrière-plan en fait sur ce qui pourrait ne pas fonctionner ou quel blocage je peux avoir sur cette première pièce. Et généralement tout se nourrit en fait, c'est aussi ça, comme tout dialogue entre eux de manière un peu éclatée, ça m'ouvre des perspectives des fois que je vais pas avoir si je me focalise sur un seul projet en fait.
Donc ce processus créatif, il part aussi de recherches que tu vas mener par toi-même, qui sont des recherches sur des thématiques, et ensuite comment tu vas réussir à les mettre en forme?
Alors généralement, je suis très très visuelle, donc j'établis beaucoup de choses par rapport. Je regarde énormément de films, et en fait, c'est pour moi une façon d'établir une banque de données d'images. Et mon travail est effectivement très référentiel, au cinéma et au cinéma de genre en particulier, parce que c'est un espace où la femme n'est pas cantonnée à un rôle en fait de, on va dire, classique. Il y a des stéréotypes, il y a des archétypes certes, mais il y a des archétypes de femmes fortes, et tout ça en fait me permet d'avoir une, c'est comment, ces images en tête pour ensuite reprendre des éléments, des formes de symboles que je vais m'approprier pour pouvoir en fait en faire une lecture d'un point de vue effectivement féminin, puisque sur tout ce qui est produit, on est quand même sur un 80-90% d'hommes. Donc le regard, même si les femmes, elles sont plus émancipées dans le cinéma d'horreur, il reste quand même un regard d'homme. Donc moi, je pars de ça et je vois quel élément me plaît le plus et que je peux associer effectivement à des pratiques plastiques, à des médiums qui vont en fait transmettre le propos que je cherche à tenir. C'est-à-dire que je vais par exemple énormément travailler la broderie sur certains projets que je suis en train de développer, parce que c'est une pratique qui est associée en fait à quelque chose de féminin, mais qui était produite par des femmes pour des objets d'hommes. Moi, maintenant, c'est l'idée de reprendre des archétypes qui sont attribués aux hommes pour les associer en fait à une puissance féminine, et ainsi en fait raccrocher ça à des pratiques en fait qui relèvent de l'artisanat d'art certes, mais qui sont détournées et qui prennent la forme d'installations en céramique avec de la broderie, qui prennent la forme de dessins aussi, où je viens isoler tous ces éléments pour ne garder que les symboles de pouvoir. Donc il y a, oui, il y a des choses qui reviennent généralement, c'est la question du pouvoir, de la femme, et du corps en fait.
Mm-hmm. Donc on a compris que tu étais nourrie aussi par donc le cinéma, la culture populaire, l'artisanat aussi. Mm-hmm. Et donc comment progressivement toutes ces choses se sont mises en place pour qu'on arrive à un moment où tu as compris que tu étais artiste ou tu allais devenir artiste? Comment ça s'est mis en place?
Ça s'est mis en place parce que moi j'ai essayé en fait, j'avais un refus, je suis obligée de repartir sur mes études, j'ai eu un refus du système scolaire, hein, tout bêtement. C'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où j'ai eu l'énorme chance de rencontrer beaucoup d'artistes, de voir comment ils fonctionnaient d'apprécier le travail, justement de découvrir aussi. J'ai grandi dans une ville où la céramique en fait elle faisait vivre la ville, donc il y avait cette association avec les artistes qui venaient pour rencontrer des artisans et qui développait des travaux en céramique. Et donc j'ai vu un peu tout ça, et c'est vrai qu'en parallèle de ça, de grandir là-dedans et d'être dans un carcan scolaire qui était très difficile, en fait, j'ai fait un blocage et je suis partie travailler très tôt. Donc j'ai commencé à travailler à 18 ans, et dans la restauration, les choses comme ça, les premiers métiers quand on n'a pas de diplôme, mais je produisais toujours à côté. Et beaucoup de photographies, et c'était très difficile en fait de produire à côté. Et puis j'en suis arrivée à travailler dans un centre d'art, et là je me suis dit qu'en fait j'adorais ce milieu, j'adorais voir des productions, ça nourrit aussi moi mes envies, et que c'était bien de parler du travail des autres, mais que c'était encore mieux de pouvoir produire. Donc ça a été vraiment un déclic qui m'a permis en fait de me dire que là, de toute façon en France, il faut être diplômé. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre mes études, et avec les rencontres en fait que j'ai pu faire à l'école, en fait, j'ai réussi à développer mon travail, et je me suis considérée réellement comme artiste à partir du moment où je suis sortie des Beaux-Arts, où j'étais diplômée en cinquième année. Ça, enfin, à partir du moment où j'ai obtenu mon diplôme, pour moi, c'était quelque chose qui validait en fait toute la production que j'avais déjà pu avoir en fait avant de rentrer à l'école, et puis d'obtenir une forme de statut, quoi. Alors c'est une sorte de validation effectivement de l'institution, mais c'est aussi le fait d'assumer, d'avoir confiance dans son travail, en tout cas, et au moins en soi, pour se dire que voilà, c'est cette voie-là qui m'intéresse et pas une autre.
Est-ce qu'il y aurait des éléments biographiques qui sont à l'origine de certaines de tes œuvres ? Parce que, est-ce que tu penses que ta vie a une influence sur ton travail ? Tu disais que très jeune, tu avais déjà eu le contact du milieu artistique et également du milieu artisanal, donc ça c'est intéressant. Est-ce que il y a des problématiques qui te motivent particulièrement ? Tu parlais des femmes, du pouvoir.
Ouais, je pense qu'il y a des formes d'obsession qui viennent de mon enfance. Ma façon, en fait, par exemple, d'intégrer énormément la céramique, en fait, quelque part dans beaucoup de mes productions, c'est indéniable que ça vient. Effectivement, j'ai grandi à Dèvres, qui est une ville de la faïence, et où c'était quelque chose qui était partout, constamment. Et c'était un matériau assez fascinant aussi. Puis il y a eu en parallèle mon éducation. J'avais une mère féministe, et donc il y avait des interdits. Il y avait des interdits. Disney faisait partie des interdits. Je me suis battue pour avoir ma cassette de La Petite Sirène. Ça paraît bénin, mais de ça, ça crée une espèce d'obsession sur les corps. Pareil, les Barbies, j'avais pas le droit aux blondes, j'avais le droit... J'ai fini par obtenir les brunes, mais à force de beaucoup de demandes. Et donc, il y a ce rapport au corps poupée, au corps enfant, et aussi à la aux représentations des femmes quand j'étais petite, qui a nourri mes premiers projets autour de justement qu'est-ce qu'on nous montre, nous, en tant que femmes, et comment, en fait... comment ces représentations, elles sont dédoublées, triplées, elles se multiplient dans le champ de l'inconscient collectif, et elles viennent s'ancrer. Donc moi j'aime bien jouer avec ça, en fait, à partir de ce qui pour moi était presque des obsessions enfantines, deviennent, en fait, je m'aperçois que c'est les... Dans ma génération, on traîne pas mal les mêmes, parce qu'on a intériorisé beaucoup de choses, on a sur la façon dont les corps sont censés en fait être représentés, être montrés, être filmés, et tout ça, ça vient vraiment effectivement de tout ce que j'ai eu soit d'interdit, soit de ce que j'aimais regarder quand j'étais petite, et de maintenant me questionner pourquoi j'avais une telle fascination pour Barbie.
Et alors, si on revient sur tes débuts, tu disais que quand tu es sortie de l'école des Beaux-Arts, tu savais que tu étais artiste. Voilà, ça, c'était une évidence pour toi. Ensuite, est-ce que ton travail a commencé à être marqué par différentes personnes ? Par qui en particulier ? Est-ce que ça touchait ?
Il y a eu des gens qui m'ont soutenue, dans mes professeurs. Isabelle Levenez en particulier, Étienne Poul aussi qui m'a beaucoup soutenue et accompagnée, mais surtout dans le travail pour pas que je lâche la production, parce que ce qui est le plus compliqué quand on sort d'une école, hein, c'est de continuer à produire, puisqu'après faut quand même manger, donc il faut trouver un job, hein, des fois il n'y a pas le choix. Puis il y a aussi Grégory Duhamel qui nous avait permis de faire une exposition en fait au sein de l'école d'art du Choletais, qui nous permettait en fait directement à la sortie de l'école des Beaux-Arts d'avoir une exposition de jeunes diplômés. Donc ça c'était ça permettait déjà d'envisager et de tester grandeur nature ce qu'est en fait une exposition quand on est jeune artiste. Après ça a été c'était quand même assez dur, parce que c'est vrai que je suis très solitaire dans mon travail, et donc j'ai tendance à bosser toute seule, et le rapport collectif était un petit peu compliqué. Et ce rapport au dossier, aux demandes de résidence, aux choses comme ça, il faut réussir à l'appréhender. C'est très chronophage. Donc, à un moment, on se retrouve des fois à plus faire de dossiers qu'à produire. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, le Covid, ça a été un petit peu violent. Mais c'était une grosse difficulté, effectivement, la sortie de l'école.
Et est-ce que tu penses qu'en tant que femme et artiste, tu as eu plus de difficultés?
Je pense, ouais. Honnêtement,
c'est très important.
Je pense que à la sortie des écoles, il y a une. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur les promos, sur les promotions en fait. Avant moi, il y a une plus grande facilité pour les garçons que pour les filles. C'est assez épatant parce qu'en fait, on va être 85% de filles dans une promotion. Et très peu en fait vont devenir artistes. Et quand dans cette promotion il y a des artistes qui sortent, et ben généralement c'est assez masculin. Mais je pense que ça c'est sociologique, c'est-à-dire qu'ils ont plus facilement confiance en eux, plus facilement de capacité à se mettre en avant, mais c'est de manière inconsciente. Quand je dis se mettre en avant, c'est pas péjoratif, mais à aller vers les gens et à parler de son travail et à assumer son travail, tandis que nous, les femmes, il y a un côté, effectivement, on a beaucoup intériorisé, où on va toujours se questionner sur est-ce qu'on est légitime ou pas, et la question de la légitimité, elle se pose beaucoup moins quand on est un homme.
Même encore à ta génération.
Je pense que c'est vraiment intériorisé, que ça, là maintenant, on s'affirme, mais à la sortie des écoles, il y a cette question de la légitimité en tant que femme. Moi, j'ai vu beaucoup de mes camarades de classe continuer les études après un diplôme de Beaux-Arts, donc c'est quand même questionnant, parce que ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas pour faire une vraie carrière d'artiste, ou ça ne suffit pas pour s'exprimer en tant que femme.
C'est ça. C'est pour obtenir, elles refont les Arts Déco de Paris, par exemple, ou elles refont une école de cinéma, elles refont...
Ah oui. Donc elles pensent qu'elles ont besoin encore de plus consolider leurs acquis.
Voilà.
Et se spécialiser peut-être.
Et je n'ai pas vu d'hommes faire la même chose. Donc, pour ceux que je connaisse, en fait, eux, par contre, ils partent vers des formations techniques qui leur permettent après, effectivement, de développer leur pratique sur des installations monumentales, par exemple, des choses comme ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a plus de facilité. Mais c'est à nous aussi de comprendre qu'on a intériorisé cette question de la légitimité et de la confiance en soi. Ça commence à disparaître, c'est tant mieux, et je pense que ça disparaît aussi parce qu'il y a de plus en plus aussi de commissaires femmes. Et ça, c'est pas anodin, mais ça fait beaucoup de bien parce qu'aussi ces femmes commissaires, elles sont invitées au diplôme, elles sont invitées dans les jurys, dans les choses comme ça. Et donc en fait, il y a une forme de validation des pairs qui se fait et de soutien et d'encouragement et d'accompagnement à la sortie. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Puis dans les pratiques aussi de femmes qui sortent des Beaux-Arts, il y a beaucoup plus de femmes qui deviennent aussi commissaires d'exposition. Et ça, c'est aussi intéressant.
Oui. Ouais. Par la formation des Beaux-Arts.
Ouais, ou alors qui, pour le coup, elles vont continuer vers le HESS, par exemple, se diriger vers la théorie, en se questionnant sur, justement, la monstration et la parité dans la monstration artistique.
Mais donc, tu pourrais quand même dire que, actuellement, dans l'art contemporain, il y a une forme de prise de conscience qui existait déjà depuis quelque temps, et maintenant, il y a une prise de confiance de la part des femmes.
Je pense qu'il y a quelque chose qui fait. Je pense que c'est. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est si on ne montre pas, on ne voit pas. Donc, si les femmes sont montrées, s'il y a une forme d'exemple qui se développe, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, on a le droit. En fait, c'est toujours. Il y a un effet boule de neige. C'est pas qu'on a le droit. On peut prendre le droit, oui, on doit prendre le droit, mais c'est comme les prises de parole dans les mouvements féministes qui se passent, en fait. Il faut une personne, deux personnes, trois personnes. Et il faut prendre de la place. Et à partir du moment où on prend de la place, et ben les gens s'écartent aussi et laissent les femmes s'exprimer, et laissent les femmes s'exposer. Et puis les choix se feront au fur et à mesure. Mais si on ne montre pas les femmes qui sont dans les collections, si on ne montre pas les femmes dans les institutions et qu'on ne les enseigne pas, et ben en fait, moi c'est ce que je regrette le plus peut-être, c'est qu'effectivement, à l'école, on ne voit pas de femmes artistes.
Encore maintenant.
Et je remonte pour le coup, c'est une éducation qui doit se faire très 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 jeune. Et si les femmes artistes sont pas dans les institutions, quand les élèves primaires, collèges, lycées visitent ces institutions-là, les envies, on va dire, créatrices et artistiques des jeunes filles, elles sont pas validées en fait, on va pas se le risquer, on va pas se dire que moi aussi je peux faire ça. Mais je pense que là on commence à montrer de plein de façons différentes. Faut maintenant effectivement qu'il y ait un rapport peut-être un peu plus institutionnel qui se mette en place dans les collections permanentes par exemple. C'est pas ça vient, on verra.
Et alors, pour revenir à ta propre pratique, tu disais tout à l'heure que tu utilises beaucoup la céramique, la broderie. Est-ce que tu ne considères pas que ça, c'est des gestes artisanaux qui aussi ont été associés à la culture féminine, pas féministe en tout cas, mais féminine. Dévalorisée.
Ouais. Ah si, tout à fait. Et pendant très longtemps, je ne voulais pas toucher le textile, par exemple. Parce que j'avais je voulais pas être une femme artiste qui fait du textile ou qui fait de la broderie. Ou... Moi, je le vois dans une approche où je détourne généralement ces matériaux sur des matériaux un peu plus bruts ou dans une volonté de dire autre chose, enfin qui parle de pouvoir en fait. C'est si je les utilise, c'est pour parler d'un pouvoir. Puis, c'est pareil, c'est une question aussi de confiance, quoi. C'est qu'il y a un moment aussi, on a dévalorisé ces pratiques, mais elles étaient particulièrement impressionnantes aussi. Hein, donc, quand on se moque de la broderie, par exemple, j'ai envie de dire, allez-y. C'est pas non plus facile, c'est un apprentissage très compliqué.
Alors, on va ouvrir vers quelque chose qui est plus vers l'avenir.
Ouais.
Et donc, quelles seraient tes envies, tes aspirations à l'heure actuelle ?
Là, je suis en train de reparler justement de ce qui nourrissait ce travail. Est-ce que ça pouvait être biographique ou pas? Mon grand rêve, ce serait de faire une fête foraine. J'ai toujours eu une obsession des fêtes foraines sur la lumière, les odeurs et les formes qu'on pouvait retrouver. Et ce serait effectivement de développer quelque chose autour de ça, dans le rapport un peu immersif, un peu, pas qu'un peu, mais d'être dans un travail complètement immersif. Et je sais que le 104 a fait une exposition là récemment sur la fête foraine, de reprendre en fait et de détourner ces choses populaires, ces événements populaires, pour les réintégrer dans un environnement un peu différent, ça me ferait beaucoup beaucoup rire. Puis de modifier, de réincorporer encore plus le travail de vidéo que j'ai pu faire, qui fait partie de ma pratique, mais qui reste pour l'instant un petit peu décorrélé en fait de mes installations, et de travailler quelque chose en fait qui soit cohérent dans un ensemble, vraiment, de pas faire une exposition, de faire une énorme installation exposition en fait, et que tout fonctionne ensemble. Ce serait vraiment vraiment un grand rêve,
une grande inspiration en tout cas.
Voilà,
ben, on va bientôt se quitter, mais pour finir, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'œuvre qui t'a profondément marqué et qui peut-être t'as donné envie d'être artiste, ou en tout cas qui t'a bouleversé au point que ça a changé quelque chose dans ta réflexion et dans ta vie.
C'est très jeune, j'ai vu The Ballad of Sexual Dependency de Nan Golding, et j'avais pas le droit de passer le rideau noir derrière lequel était diffusé son diaporama. Et ça m'a ouvert sur un monde, alors certes violent, dans le rapport au sexe, à la drogue et tout ça. Et, enfin, comme elle cache rien, en fait, il y a tout, quoi. Et c'était juste dingue de... Dingue de folie, de gens différents, de gens... parce que bon, j'ai grandi, même si j'avais une certaine ouverture sur le monde, j'avais jamais vu de drag queen, j'avais jamais vu de gens qui faisaient la fête à New York, et de me dire, waouh, on peut faire ça en étant artiste. C'est vrai que la vie peut être une œuvre d'art qu'on met en scène, et tout en étant indépendant, quoi, c'était dingue. Et ça m'a extrêmement marqué. J'ai toujours gardé Nan Goldin comme une espèce de point de référence, en fait, sur même si c'est très très différent, parce que moi je suis très cinématographique et fictionnelle, il y a quelque chose chez elle qui me parle énormément, en fait, dans la narration et dans la photographie, en fait, d'art. C'était ça, que ta vie puisse être une photographie d'art, moi ça m'avait juste estomaqué.
Bien, Milena Massardier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.